se tromper dans la masse, dans l'escadron, car il y est en nombre, et le nombre a toujours raison.
Dans notre imaginaire français, la Révolution, c'est le grand soir, et puis le lendemain matin, c'est le matin qui chante. Voilà, ça se fait au cours d'une nuit, ça se fait très vite, d'un seul coup, d'un seul. Et c'est pas toujours ce qu'on observe dans l'histoire, et puis il y a des révolutions qui sont pas toutes progressistes, mais qui peuvent être très lentes aussi. Et c'est sans doute le cas de cette lente révolution qui voit l'effacement de la démocratie au profit de l'oligarchie sur 20 ans, 30 ans. Cette oligarchie n'a cessé d'étendre son emprise et son empire sur nos vies. C'est ce que dénonce Hervé Kempf dans ce bouquin dont nous parlons. L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Hervé Kempf, vous avez une quantité de citations pour étayer votre idée que la démocratie s'efface au profit de l'oligarchie. On peut puiser presque au hasard. Vous citez Huntington, par exemple, auteur de l'idée de la guerre des civilisations et de la fin de l'histoire. C'est bien ça, hein, Huntington ?
Tout à fait. C'était le théoricien du choc des civilisations dans les années 80.
Voilà. Et qui va dans votre sens, ou plutôt c'est vous qui allez contre le sens de Huntington, qui dit « Plusieurs des problèmes de gouvernance aux États-Unis aujourd'hui découle d'un excès de démocratie. Ce qui est nécessaire est un degré plus grand de modération dans la démocratie. Ici, plus loin, le bon fonctionnement d'un système politique démocratique requiert habituellement une certaine mesure d'apathie et de non-engagement d'une partie des individus et des groupes. Il va encore plus loin. Nous en sommes venus à reconnaître qu'il y a potentiellement des limites désirables à la croissance économique. Il y a aussi potentiellement des limites désirables à l'extension indéfinie de la démocratie politique. Huntington a été un maître à penser, il le demeure, pour les néocons américains, dont nous avons les petits frères ici en France et un peu partout dans le monde, dont ces phrases-là sont les bibles et sont les tables
c'est
d'or.
C'est le programme politique, parce qu'avant, on a cité Lippmann, Bernays, Schumpeter. Ils posent les bases, j'allais dire, théoriques de l'évolution du système politique, mais ils ne sont pas en mesure de l'imposer vraiment. Bernays va avoir une influence énorme dans le développement de la télévision, mais qui va surtout prendre dans les années 50 le biais d'impressionner les gens sur le plan de la consommation et leur acte économique, mais pas encore beaucoup sur la politique. Ce qui est dans ce texte de Huntington, qui date de 1975 et qui est au nom de la commission trilatérale qui vient de se créer, c'est-à-dire un club d'oligarques, on va en revenir peut-être après, c'est le programme politique clair. C'est-à-dire, après ces années 60 qui ont été quand même une floraison de la démocratie où les gens ont bougé dans tous les sens, ont vraiment remis en cause, ont imposé le pouvoir des travailleurs, ont fait mai 68, etc. Il faut absolument reprendre le contrôle de ce peuple, de cette société qui est décidément trop... Et là, ça devient un programme politique. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Bernays et Schumpeter étaient des théoriciens qui avaient posé des bases. Mais là, avec la trilatérale et ce texte d'Huntington, ça devient un programme politique. Il faut reprendre le contrôle de la démocratie, c'est-à-dire conserver l'appellation de démocratie, mais en faisant en sorte que ce soit une couche dirigeante qui la dirige.
Alors, la trilatérale, vous citez aussi le club Bilderberg, et là on
s'est dit... dont Alexandre Adler, par exemple, fait partie.
Donc on se dit, voilà, ça y est, on a compris, Hervé Kempf, c'est le complot. Il nous emmène vers le complot, il nous dit, derrière le rideau, la nuit, il y a des gens qui se réunissent et qui décident de l'avenir du monde. Or, eh ben non, pas du tout. Vous nous dites, le groupe Bilderberg, eh bien, à Pignon-sur-Rue, on peut savoir quand, c'est chaque année, ce groupe se réunit, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les oligarques, parce qu'il faut quand même mettre des visages un peu derrière ce mot, se réunissent maintenant sans aucune espèce d'idée de complot. Ils se réunissent simplement entre eux, parce qu'au fond, le monde leur appartient.
Et ne se cache plus, alors que pendant longtemps, dans les années 60, 70, jusqu'encore les années 80, en tout cas en Europe, il fallait cacher la richesse, cacher le pouvoir qui était encore en expansion. Maintenant, effectivement, le pouvoir de l'élite est si bien assuré qu'il n'y a plus beaucoup à se cacher. Et le forum de Davos, qui est un autre point de rencontre tout à fait essentiel, a lieu chaque année en janvier de façon parfaitement ouverte. Alors, quand même, il y a des clubs plus discrets, mais effectivement, il n'y a pas besoin de recourir à la théorie du complot, c'est-à-dire dire que ce pouvoir est tellement visible et tellement évident, la fusion, l'hybridation entre le pouvoir politique et le pouvoir économique est tellement évident, de M. Berlusconi à M. Sarkozy, du fonctionnement du régime américain au gouvernement de millionnaires qui est à l'heure actuelle en place en Angleterre, etc. Tout ça est absolument évident, il n'y a pas besoin de complot, c'est simplement un fonctionnement politique qui existe.